Vous écoutez
RMC.
Très belle journée à l'écoute d'RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline. Bonjour à tous. La guerre contre le trafic de drogue, réunion de crise ce matin à l'Elysée, en pleine spirale de violence à Marseille et à Grenoble ces derniers jours. On va tout vous expliquer. Les maires de toute la France convergent en ce moment vers Paris pour le congrès des maires qui va commencer là dans quelques heures avec de nombreux scolaires, vous verrez. Et on consomme beaucoup trop d'antibiotiques en France. Ça redevient automatique. On a les derniers chiffres ce matin.
C'est une grande réunion sur le narcotrafic qui va se tenir ce matin à l'Elysée.
Oui, c'est Emmanuel Macron qui a convoqué son Premier ministre, plusieurs ministres, le procureur marseillais, les patrons de la police nationale et judiciaire, quelques jours seulement après la mort par balle à Marseille du frère du militant anti-drogue Amine Kessassi, avec la piste du crime d'avertissement qui est ouvertement évoquée. Certains militants d'ailleurs dans ce combat disent qu'ils arrêtent ce combat contre les narcotrafiquants. Combat bien difficile à mener, hein, Constance Bostoen.
La criminalité organisée et le narcotrafic sont installés en profondeur en France. C'est le constat dur dressé par Frédéric Lauze, secrétaire général du syndicat des commissaires. Il évoque même une guerre asymétrique.
On est face à des délinquants qui sont agiles. On n'y arrive pas parce qu'il faut plus de moyens pour la police judiciaire, plus de moyens en hommes. La procédure pénale n'a cessé de se complexifier. Donc on manque de temps, on manque de moyens. C'est comme si on courait un 100 mètres avec des poids de 10 kilos au pied.
Des difficultés soulevées aussi par les acteurs de la justice. Aurélien Martini, le secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats, estime lui que le combat sera long et difficile.
Il faut sur ce sujet être très concret, dire qu'il n'y a pas de solution magique. Ça, c'est important. On ne va pas régler le problème du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. L'Italie a mis du temps à desserrer l'étau de la mafia et elle est encore présente.
Tous deux espèrent que la réunion organisée par Emmanuel Macron permettra aux acteurs du monde de la police et de la justice de se mettre, je cite, en ordre de bataille contre le narcotrafic.
L'autre rendez-vous du jour, c'est le début à Paris, porte de Versailles, ce matin du 107e congrès des maires. C'est tous les ans à la même époque, mais alors là, ça tombe en plein débat budgétaire. C'est un sujet de colère, on va en reparler. Il y a 4 mois aussi, les élections municipales. Ça aussi, sujet d'inquiétude, en tout cas parce que les règles vont changer en mars prochain pour les municipales. Même les petites communes, celles de moins de 1000 habitants, vont devoir se mettre à la parité. Et alors, Romain Cluzel, vous avez enquêté pour le service politique RMC, c'est le choix de la rédaction ce matin. Les maires que vous avez interrogés vous disent que ça rajoute de la complexité.
Oui, et ils sont une majorité à rejeter cette parité pour leur liste. Près des 2/3 dans les communes de moins de 500 habitants, selon une étude du Cevipof publiée il y a quelques jours. Leur crainte principale, c'est de ne pas trouver assez de candidats et de candidates. La parité pour toutes les communes, cela désole Pascal Québec. Elle est maire de Beausugan en Gironde, une commune de 47 habitants seulement.
Pourquoi nous obliger à ça? Pourquoi? Ça rime à quoi? La valeur d'une personne ne se limite pas au fait qu'il soit homme ou femme.
Les maires doivent pédagogie pour convaincre de potentielles candidates. Le principal frein, c'est le temps que cela prend, en plus du travail et de la vie familiale. Séverine Mettet a sauté le pas, elle est infirmière libérale et elle a accepté de faire partie de la liste de son maire à Ruillé-en-Champagne dans la Sarthe. Infirmière libérale a accepté parce qu'elle n'a eu plus que 10 réunions par an pour participer au conseil municipal. Et le maire, justement, Thierry Dubois, veut voir le côté positif de ce changement.
Monsieur le maire m'a dit que normalement, ça ne serait pas trop de réunions, une réunion par mois, c'est ça?
C'est ça, oui.
Avec des dates anticipées. Ça m'a rassurée. S'il n'y avait pas eu cette parité, je n'aurais pas dit oui, en fait.
On vient donc d'entendre Séverine Mettet et c'est désormais le maire, justement Thierry Dubois. Lui, il veut voir le côté positif.
Évidemment, c'est une contrainte, mais c'est aussi une chance. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'on a la possibilité d'inviter et de faire découvrir la vie communale à de nouvelles personnes.
Et il insiste, le plus important est d'anticiper. Thierry Dubois a commencé sa liste dès cet été pour donner le temps de la réflexion à Séverine et aux autres membres de la liste.
Voilà le choix de la rédaction signé Romain Cluzel ce matin sur RMC.
Et puis notez que mon invité à 8h30, ce sera le président de l'Association des maires de France, lui-même maire de Cannes, David Lisnard. Et puis ce soir, les maires seront à l'honneur sur RMC. Ce soir, les maires, c'est le grand prix des maires RMC, un concours qui existe depuis plus de 10 ans, qui récompense les innovations des élus du quotidien. Il y a plus de 400 communes qui ont ont été candidates. 7 vainqueurs, des centaines de maires ce soir au Lido pour la grande cérémonie finale. Vous entendrez certains des vainqueurs demain dans les grandes gueules, donc ce grand prix des maires RMC qui se tient ce soir. Il est 8h05.
Congrès en plein débat budgétaire au Parlement. D'ailleurs, écoutez ce qu'en pense Emmanuel Macron de ces discussions en ce moment sur le budget.
Et je le redis ici, est-ce que je suis satisfait tous les jours de ce qui est voté au Parlement ? Non. Mais est-ce que je pense que la stabilité politique est nécessaire et la recherche de compromis indispensable ? Oui.
Voilà, vous entendez Emmanuel Macron parler de la situation politique un an et demi après la dissolution de l'Assemblée, vidéo qu'il a publiée sur son compte X à l'issue du sommet Choose France. Les soucis s'accumulent au musée du Louvre. En plus de la sécurité, désormais c'est le plancher d'une des galeries qui est ce que c'est de s'effondrer, en l'occurrence la galerie Campana, fermée par précaution, elle venait pourtant d'être rénovée. Elle abrite de la céramique grecque dans le prolongement de la galerie Apollon où ont été dérobés il y a environ un mois les joyaux de la couronne. C'est une des informations de la matinée. Les antibiotiques redeviennent automatiques. La France fait même partie des champions d'Europe en la matière et ça pose des problèmes de santé pour ceux qui en prennent trop. C'est l'alerte ce matin de Santé publique France, Romain Houck pour RMC. La prescription et la consommation d'antibiotiques sont reparties à la hausse l'année dernière.
Oui, la prescription d'antibiotiques augmente de 4,8%, leur consommation de 5,4%. La tendance était pourtant à la baisse depuis 2014, mais voilà, les épidémies saisonnières de l'hiver dernier, comme la grippe ou la bronchiolite, ont ravivé les mauvais réflexes avec trop de prescriptions d'antibiotiques, pourtant inutiles dans de très nombreux cas selon Santé publique France. Résultat, avec 860 prescriptions d'antibiotiques pour 1000 habitants, la France est bien loin de l'objectif de 650 prescriptions pour 1000 habitants fixé pour 2027. Et le pays remonte de la 5e à la 2e place au classement des plus gros consommateurs en Europe. Alors pourquoi c'est un problème ? Eh bien parce que cette surconsommation favorise l'apparition des bactéries résistantes aux antibiotiques et donc des maladies plus difficiles à traiter. Ça s'appelle l'antibiorésistance. L'Organisation mondiale de la santé considère que c'est aujourd'hui l'une des principales menaces de santé publique et a raison puisque ça compromet l'efficacité de traitements vitaux comme contre la tuberculose et ça peut rendre mortelles de simples infections courantes.
Puisqu'on parle de santé publique, grande nouveauté ce matin, la carte vitale débarque sur smartphone. On pourra l'utiliser comme une carte bancaire en fait. Partout en France désormais, un dispositif est disponible jusque-là mais seulement dans la moitié du pays. Grand changement aussi en préparation chez EDF, le géant de l'électricité, qui va interdire à partir de l'année prochaine la consommation d'alcool sur tous ses sites. Fini les petits pots entre collègues avec une bière ou un verre de vin. Pareil pour les séminaires ou les repas d'affaires. Désormais, l'alcool sera banni. Au nom de la santé publique, au nom de la lutte contre l'alcoolisme, c'est déjà le cas par endroit comme chez vous à Rennes, Martin Lange pour RMC.
Sur ce site d'Enedis, filiale d'EDF, l'alcool est banni depuis plusieurs années, pendant les heures de travail, mais aussi en dehors. Victor, 35 ans.
C'est pas du tout un problème. Non. On fait notre pot de départ, on reste au jus d'orange et au petit gâteau, c'est très sympa. Après, si on souhaite, on peut aller en moment un peu plus off entre nous. Mais bon, pas l'entreprise en tout cas.
Une interdiction qui concerne également les déjeuners pour lesquels l'alcool n'est plus remboursé.
C'est vrai qu'au début, ça fait un peu de bruit, ouais, forcément, par rapport à cette génération. On était plutôt habitué à avoir de l'alcool un peu sur les moments du midi, ouais, ça a pu un peu grogner, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt rentré dans les mœurs.
Régis, 30 ans d'ancienneté, fait justement partie de cette génération. Il a notamment passé plusieurs réveillons d'astreinte.
On allait acheter, par exemple, des huîtres et on buvait juste un petit verre de vin blanc avec les huîtres, mais c'était tout, ça restait là. Mais maintenant, c'est plus possible, c'est interdit. On s'y adapte, on prend la bière après le travail et puis c'est tout.
Des moments rares, certes, mais qu'il ne faut pas banaliser, selon Hugues Renaud, addictologue.
Découvert de moments festifs, cautionne la consommation. La politique de prévention, c'est ça. C'est éviter la banalisation, éviter de faire croire à chacun qu'une consommation peut être anodine.
Des spécialistes qui se félicitent que les entreprises mettent fin à la tolérance pour les alcools dits légers. De l'alcool, c'est de l'alcool, il n'y a pas de distinction à faire.
Bon, et puis une info en foot, les Bleus qui envisagent une tournée aux États-Unis au mois de mars l'année prochaine pour préparer la Coupe du Monde avec deux matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie. Ils sont évoqués ces matchs en attendant. Je vous signale que ce soir, l'ancien directeur du PSG, Leonardo, sera le grand invité de l'After. Sa parole est rare, évidemment, ça ne pas manquer.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h09 sur RMC et RMC Story. C'est l'heure de parler économie. Il y a 10 milliards qui se sont évaporés.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel. Emmanuel, le chiffre, il manque 10 milliards de recettes de TVA dans le budget 2025 et Bercy ne sait pas où ils sont passés.
Et oui, rappelez-vous déjà la polémique autour du budget 2024. Bercy s'était trompé dans les grandes largeurs sur les prévisions de rentrée fiscale. 20 milliards d'euros à l'époque manquaient dans les caisses. Alors les plus excessifs avaient parlé de scandale d'État. Bruno Le Maire avait dû se justifier devant une commission d'enquête parlementaire. Eh bien, le cauchemar continue pour nos virtuoses des finances publiques, puisque cette fois-ci, ce sont effectivement pas loin de 10 milliards d'euros qui manquent à l'appel. Et il faut rappeler que la TVA, hein, c'est l'impôt qui rapporte le plus. On est autour de 200 milliards
normalement,
d'euros.
S'il ne manquait pas ces 10 milliards, pourquoi ces 10 milliards ne sont pas rentrés dans les caisses ?
Alors, d'ores et déjà, il y a une commission d'enquête qui a été lancée, mais la ministre du Budget, Amélie de Montchalin, elle a une explication qu'elle met en avant, c'est les petits colis en provenance de Chine, notamment, j'ai envie de dire, encore eux.
Ouais. Hein, ils ont bon dos,
dont le nombre explose. Alors, en fait, la valeur de la majorité de ces colis serait sous-estimée, mal déclarée, avec des montants trop bas pour être correctement taxés. Donc, en fait, chaque petit colis pas cher serait potentiellement une micro-fuite fiscale, mais quand il y a des dizaines, voire des centaines de millions de colis, ça finit par faire des grosses sommes.
Hein. Ça ne peut pas tout expliquer, 10 milliards,
non.
10 milliards.
Non, il y a d'autres explications qui sont autant de sujets de migraines d'ailleurs hein, à Bercy. Il y a l'augmentation de la fraude intracommunautaire, sans doute, puisqu'il faut rappeler que la TVA est l'impôt le plus facile à esquiver. Il y a le changement de comportement des consommateurs qui, depuis le Covid et la flambée de l'inflation, achètent davantage de produits peu ou pas soumis à la TVA. C'est les produits de première nécessité, les produits de seconde main. Il y a les entreprises qui ont dû réduire leur marge pour continuer à vendre à des prix serrés. Bah, et moins les prix augmentent, bah, moins ça fait de rentrée de TVA. Alors, il y a des améliorations attendues, notamment avec la facturation électronique. Hein, vous savez qui oblige les entreprises maintenant à déclarer tout d'ici 2027. Ça pourra rapporter 2-3 milliards, mais ça ne suffira pas. Bercy ne pourra pas faire l'économie d'une remise à plat de ces modèles de calcul qui ne correspondent plus à l'économie d'aujourd'hui. Et puis, on a envie de dire, mais de toute façon, est-ce que c'est pas vain hein, tout simplement, faisons comme font par exemple les Néerlandais. Les Néerlandais, ils savent qu'ils maîtrisent parfaitement les dépenses. Parce que c'est eux qui les décident. Les recettes, on ne sait pas trop. Donc en fait, ils ont une prévision de croissance moyenne. Et puis ils se disent, si la croissance est supérieure et qu'on fait plus de recettes, tant mieux. Mais nous, ce qu'on maîtrise, c'est les dépenses. Donc arrêtons
c'est pas tout
de
à
nous
fait
focaliser.
Ce n'est pas tout à fait ce qu'on maîtrise.
Arrêtons de nous
chez
focaliser
nous.
Sur les recettes et pensons un
on
peu aux dépenses.
On n'a pas vraiment l'impression qu'ils ont beaucoup maîtrisé les dépenses.
Non, parce que, non, puis en plus, quand vous discutez d'amendements de centaines, de dizaines de millions, etc., à quoi ça sert d'enflammer le Parlement pour ça, alors qu'on se trompe de dizaines de milliards.
Et Emmanuel va mener l'enquête, les 10 milliards d'euros. Merci Manu. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche qui nous rejoint. Et puis je vous redonne l'info, l'invité ce matin à 8h30, le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Et puis à 8h50, bien sûr, il y aura Face à Canteloup. Il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
8h16, Arnaud Demanche qui nous rejoint. Salut Arnaud.
Bonjour à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Vous, au moins vous, parce que le reste du pays va mal, Apolline.
Oui.
Très mal. Je lisais un article du Figaro ce matin sur la fatigue des députés pendant l'examen du budget. C'était intitulé « Tension, blagues graveleuses et trafic de bonbons à l'Assemblée, plongée dans l'enfer des nuits budgétaires ». Ça fait peur,
On
dirait un reportage d'enquête exclusive. Bonjour, je suis Bernard de la Bernardière et nous sommes infiltrés dans les favelas de l'Assemblée nationale entre bombec et blagues tendancieuses. Écoutez cette caméra cachée à voix modifiée.
Et Jean-Pierre, tu connais l'histoire du rabbin au bois de Boulogne ? C'est Sandrine Rousseau qui me l'a raconté. Alors c'est un rabbin qui va voir une brésilienne.
La séance reprend, mesdames et messieurs.
Quel niveau ! Non mais vraiment, imagine-t-on Édouard Balladur faire des contrepétries à Simone Veil, hein ? Simone, faut qu'on prenne rendez-vous. Je te laisse le choix dans la date. Non. Bravo, c'est d'une élégance. Au moins, Valéry Giscard d'Estaing, il a jamais raconté des blagues limites et trafiqué des bonbons à l'Assemblée.
Bonjour, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, nous allons aborder la loi de finances rectificative pour les dotations pluriannuelles aux collectivités locales. Mais d'abord, cette question, connaissez-vous l'histoire de l'homme à 5 bits ?
Oh non !
Eh bien, son slip lui va comme un gant. Voilà. Ce genre de propos liminaire étant posé, qui veut un Ricola ? Ricola !
Parce que trafic de bonbons aussi. Mais ils ont quel âge ? J'imagine la déception de Louis Boyard quand François Hollande va lui faire passer de la cam, c'est « Hé, gamin ! Hé, t'en veux ?»« Ah ouais, grave, c'est marrant, c'est en forme de Haribo. »« Mais c'est des Haribo, hein ? Mais c'est nul, c'est pas, ça fait pas planer ça. Alors dans l'article sur l'addiction des députés, il y a aussi cette phrase terrible sur Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes Publics, qui, je cite, savoure un thé verveine bien chaud. C'est la clé pour tenir le rythme, chuchote-t-elle. Ça et la coke, mon Dieu. On a des députés accros au thé verveine, revendus par des dealers de la TZ Mafia. En même temps, l'examen du budget, c'est chaud. Il y a 1600 amendements à examiner. Du coup, ils ont demandé à se reposer. C'est vrai, la fatigue se fait sentir. Ils commençaient à faire n'importe quoi, là, depuis... Deux ans. Deux jours, ça me paraît pas assez pour se reposer. Reposez-vous mieux, restez chez vous, partez même, démissionnez, dehors. Par contre, au RN, il va falloir que quelqu'un se dévoue pour annoncer à Jordan Bardella que les vacances au Parlement européen sont terminées. Là, depuis début septembre, il va falloir revenir, que quelqu'un le secoue, lui fasse « Jordan, réveille-toi, allez, t'as 3 mois de retard, il faut aller à Bruxelles.
J'ai basic fit, j'ai pas envie. »
L'Ukraine, Arnaud, qui a annoncé vouloir acheter jusqu'à 100 rafales à la France.
Oui, Zelensky est allé voir Macron hier, il lui a dit « Monsieur le Président, je vous achète 100 rafales. » Oui, c'est une bonne nouvelle, Volodymyr, mais... Alors, excusez-moi de poser la question, c'est peut-être indélicat. Vous êtes solvable?
Voilà, c'est ça. C'est
la... Non. Bah alors, qui va payer? Bon, c'est vous, c'est comme d'habitude. Vous voulez quand même pas laisser Poutine envahir l'Europe? Non, c'est pas ça, c'est très cher quand même. Bah, vous avez qu'à vous les vendre moins cher. Non, mais non, attendez. J'ai dû rater un truc. Attendez, je vérifie. Allô? Le cornu? T'es toujours Premier ministre? Bon, il va falloir trouver 10 milliards d'économies en plus parce que visiblement, on en a besoin pour s'acheter nos propres rafales. On s'est mal débrouillé.
À Champigny-sur-Marne, des parents d'élèves ont dû retirer une banderole réclamant plus de soutien scolaire pour leur enfant handicapé.
Oui, vous avez vu cette histoire. Ce matin, j'ai envie de vous faire rêver. Vous faire voyager, vous emmène à Champigny-sur-Marne. En fait, des parents d'élèves réclamaient des AESH, donc des accompagnants des élèves en situation de handicap. Et ils ont mis plus, on veut plus d'AESH sur la banderole. Là-dessus, la police est venue et ils ont lu « On veut plus de Daesh ». Et oui, la confusion bête. Là, ils ont débarqué, ils ont fait « Alors, comme ça, on soutient les islamistes ? Eh ben, c'est du propre. Si j'avais le droit d'être armé, je vous tirerais dessus. » Non, mais non, monsieur, on en a besoin pour accompagner le voyage scolaire en Asie. En Asie ? Oh, de mieux en mieux ! Joseph, sors le taser. Non, non, arrêtez. En plus, si vous avez fait tomber mon sac, il faut que je le ramasse. Le Hamas ! Elle soutient le Hamas ! Mais non, je vous explique. On a des enfants handicapés, on les emmène faire du scoutisme cet été, on a besoin de quelqu'un pour les garder dans le camp. Elle veut mettre des handicapés dans des camps ! Mais non, c'est du scoutisme, c'est des camps.
Oh,
à la UKIDI, UKIDA, des camps d'Al-Qaïda, Al-Qaïdi, Al-Qaïda. Allez, bon courage les parents d'élèves. On est avec vous. À demain.
Merci Arnaud. Arnaud Demange tous les jours à 7h20 et à 8h20. Il est 8h21, on va partir au 32-16. Cédric qui est avec nous, qui nous appelle d'Indre-et-Loire et qui est agriculteur. Bonjour Cédric. Vous avez entendu sans doute la chronique d'Arthur Chevalier tout à l'heure qui disait qu'il y avait 40 000 fermes qui avaient disparu en 3 ans. Vous vouliez témoigner?
Oui, je voulais témoigner parce que, de toute façon, aujourd'hui, c'est la résultante d'une politique ou d'une absence de politique depuis de nombreuses années. Depuis Pisani, en gros, qui avait fait une politique agricole avec une loi d'orientation forte pour pouvoir nourrir la France à l'époque, et ça a marché. Mais depuis, il n'y a pas eu vraiment de politique agricole vraiment forte pour orienter l'agriculture.
Vous trouvez que c'est dur, vous, au quotidien? Cédric, vous avez 41 ans, vous avez quoi comme exploitation?
Alors moi, j'ai des céréales et des porcs.
Ouais.
Et oui, c'est au quotidien, c'est un métier dur. C'est un métier dur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne se dégagent pas d'argent de leur exploitation. Et c'est aussi ça la problématique, c'est que quand on vit pas de son métier, à un moment donné, ça donne pas envie aux jeunes, à la future génération, de même si certains sont passionnés, mais ça leur donne pas envie d'aller s'installer pour rien gagner.
À refaire, vous, Cédric, vous reprendriez?
Oui, je le referais. Oui,
vous le referiez.
Mais après, il y a aussi l'aspect normatif, parce qu'aujourd'hui, les différentes normes qui succèdent en France, en Europe, et puis surtout la France qui est championne du monde pour faire plus que ce que l'Europe demande, Et il y a les normes, il y a les réglementations.
On se rajoute les normes, les réglementations. Et avant de tailler une haie, j'avais regardé, vous aviez pratiquement 20 formulaires à remplir avec des cases à cocher sur la taille de l'une ou de l'autre. Merci en tout cas Cédric d'avoir témoigné. Je retiens quand même que Cédric, agriculteur à 41 ans, dit si c'était à refaire, je le referais. Voilà un message qui est passé ce matin, 8h23. Dans un instant, mon invité c'est le maire de Cannes et le président de l'Association des maires de France. Toutes ces difficultés auxquelles sont confrontés les maires. Dans une heure maintenant, le congrès des maires de France va ouvrir ses portes. On en parle bien sûr avec David Bisnard dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h28, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour David Lisnard.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin à quelques heures de l'ouverture du Salon des maires, le grand Salon des maires, et surtout à 3 mois des municipales. De nombreuses questions et difficultés auxquelles les maires sont confrontés. Laissez faire les maires, c'est votre cri du cœur. Vous voulez moins de normes, plus d'autonomie, notamment financière. On va y revenir. Mais d'abord, cette question qui concerne désormais tous les territoires et donc tous les maires de France, la question du narcotrafic, des étapes, des terribles étapes ont encore été franchies ces derniers temps. Un jeune de 12 ans entre la vie et la mort, le frère d'un militant anti-drogue de Marseille qui a été pris pour cible, et cette réunion dans 1h30 maintenant à l'Élysée, énième réunion j'allais dire pour tenter de lutter contre le narcotrafic. C'est une question à laquelle vous êtes constamment confrontés, les maires, sur le terrain. Qu'est-ce que vous attendez de réunions comme celle-là ?
D'abord, merci beaucoup de votre invitation et de cet intérêt pour ce plus grand rendez-vous mondial d'élus. Hein, c'est la France, le pays réel qui va être concentré porte de Versailles. Le narcotrafic, c'est pour ça qu'il faut souvent écouter ce que l'on dit dans le Congrès plutôt que les relations avec le président, etc. Nous avions alerté depuis des années. Je me souviens très bien avoir dit que dans un passage dans l'Allier, j'avais remarqué que des villages que j'ai connus quand j'étais petit devenaient, il y avait des points de deal en pleine ruralité. L'année dernière, nous avons organisé, quand on voyait que ça bougeait pas, une grosse table ronde au Congrès des maires sur le narcotrafic. Étaient venus notamment les deux sénateurs qui avaient co-rédigé ce très excellent rapport, et il en a résulté la loi, qui est une bonne loi. Hein. Et parce que cette réalité-là, nous la vivons, et dans les grandes villes, dans les villes moyennes, mais aussi dans les villages. Ce qu'il faut maintenant, comme toujours en France, au-delà des séquences de com, au-delà des affichages
ou des réunions d'urgence, à nouveau.
Mais réunions d'urgence, le président de la République, c'est pas lui qui, enfin, c'est la police qui agit, c'est la gendarmerie, c'est la justice, éventuellement le gouvernement, mais enfin, on sait très bien qu'on est dans un contexte où il n'y a pas de majorité, etc. Donc tout ça, c'est de la séquence. Ce qu'il faut maintenant, c'est de l'exécution des choses. Hier, le sénateur Étienne Blanc, qui est un des deux co-auteurs du rapport, intervenait sur la réunion que nous organisons sur les Outre-mer, qui sont souvent une porte d'entrée hein, des stupéfiants, même s'il y a de plus en plus de production locale, mais pour les drogues de synthèse, pour la cocaïne, etc. Et donner ces chiffres terrifiants. Le trafic de drogue, c'est au moins 7 milliards de chiffres d'affaires. On pense même que c'est plus. Le budget de la justice, c'est-à-dire avec les pénitenciers, les
tout
prisons
compris,
et tout,
quoi.
C'est 10 milliards. Hein, il faut juste mettre ça à l'échelle, alors que la justice, c'est le cœur de l'État. Deuxièmement, il y a 250 000 personnes, au moins, qui vivent du trafic de drogue. Et souvent, ce sont des familles, parce qu'on dit qu'il faut attention à la responsabilité des familles, etc. Toutes les forces de l'ordre en France, gendarmerie, police, c'est moins, c'est 220 000 personnes. Et on voit ces méthodes de violence extrême, d'entrisme aussi, qui gangrènent le pays. Et qui aujourd'hui sont un phénomène qui nous renvoie. Ben quand
vous parlez des familles, est-ce que ça veut dire que vous considérez comme un certain nombre de maires, David Lisnard, qu'il faut responsabiliser les familles, c'est-à-dire qu'il faut que s'il y a un jeune délinquant dans le narcotrafic, éventuellement pénaliser la famille avec la question de l'accès au logement social, avec la question des allocations.
Oui. Alors. Il faut préciser les choses. Il faut retrouver les principes de l'état de droit et il faut montrer que la démocratie, c'est pas l'impuissance. Parce qu'autrement, on ouvre la voie à toutes les aventures les plus extrémistes, les plus autoritaristes. Que les choses soient claires. Quand c'est un majeur, il doit être responsable de ses actes. Quand c'est un mineur, alors on propose avec Alexandra Martin, député, un changement du code pénal des mineurs, mais c'est pas compliqué. Quand il n'y a plus de responsabilité individuelle, il y a toujours une punition collective. Tout le temps. Pour la société. Or moi, je veux bien être responsable de mes enfants mineurs, mais pas de, c'est pas facile.
Mais pas de ceux des autres.
Mais pas de ceux des autres. Donc, c'est, si on n'a pas ces principes simples, je vois tellement de familles où il y a de la complicité, en fait. On nous sort des discours, on n'était pas au courant, etc. Mais sur le recel, sur le stockage, sur la protection, sur des faux témoignages. Moi, j'ai ça tous les jours. Dans
donc, il faut des conséquences.
Donc, soit
sur le
gamin,
logement, sur
il
les
est responsable, soit il est responsable individuellement et la famille n'est pas responsable, soit il est mineur, il est sous la responsabilité de sa famille et il faut bien qu'il y ait une responsabilité. Il y a tellement de gens honnêtes qui attendent un logement. Il y a tellement de familles et dans, voilà, dans les milieux populaires, les gens sont très honnêtes, comme partout, quoi. Donc, il faut s'occuper des gens bien.
David
et,
Lisnard, et plus sanctionner les autres. Quand vous dites il faut s'occuper des gens bien, on entend peut-être le nouveau slogan des LR, la
non,
France
pardon,
des honnêtes
pardon,
gens, mais j'imagine que c'était
ça,
pas forcément,
plaît, voilà.
C'était peut-être même inconscient. David Lisnard, quand
c'est
vous parlez
une conviction,
à l'instant,
c'est tout simplement,
quand,
et c'est quand consciemment une conviction.
Exactement. Quand vous dites à l'instant la question aussi de tous ces gens qui attendent notamment des logements, vous avez sans doute vu cette réflexion lancée par le ministre, issu des LR d'ailleurs, Vincent Jeanbrun, qui veut mettre fin au HLM à vie. Alors, ça n'existe déjà pas officiellement, mais dans les faits, il est très difficile de faire un turnover. C'est du déclaratif, mais certaines familles qui ne pourraient plus prétendre aujourd'hui à un logement social, y restent quasiment à vie. Est-ce qu'il faut en effet mettre des baux 3, 6, 9, où on doit à chaque fois représenter un dossier?
Oui, et, alors c'est pas nouveau d'ailleurs, ça fait longtemps que c'est évoqué dans le débat, parce que aujourd'hui, ça devient un statut, et ça doit pas être un statut, ça doit correspondre à des réalités sociales. Et donc, le problème c'est que quand vous statifiez quelque chose, ça se fait au détriment des gens les plus modestes. Mais là aussi, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. La difficulté en France, c'est que s'il y a une rotation dans les logements sociaux que j'appelle de mes voeux, et le ministre a raison là-dessus, qu'est-ce qui se passe après pour ceux qui sortent des logements sociaux? On a quand même tué tout le marché du logement. Cette année, on va avoir de mise en logement neuf 250 000 logements à peu près, moins de 300 000. Je rappelle que quand le président Pompidou est mort, ça ne nous rajeunit pas, en 74, il y avait 450 000 logements neufs, alors qu'il y avait 10 millions d'habitants en moins. Au passage, c'est 200 000 emplois en moins si on faisait des logements. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça renvoie à toutes ces réalités locales que l'on vit, nous, dans nos communes tous les jours. La crise du logement, c'est la plus grande crise sociale. L'AMF avait alerté du temps de mon prédécesseur François Baroin. J'ai retrouvé ses déclarations en 2017 et tous les ans disaient, attention, ça va arriver. Parce qu'on a
donc on aurait pu anticiper, ouais, on le savait.
Bien sûr, mais comme beaucoup de choses, comme la crise de la santé, on sait depuis 30 ans qu'il va y avoir un vieillissement de la population. On va avoir un atelier de travail sur le vieillissement de la population. Il va falloir, on fait plus de gosses et on vieillit de plus en plus vieux. Donc on consomme de plus en plus de soins médicaux. On le sait, il fallait anticiper. Et je rappelle juste que l'AMF alerte sur le fait que sur les prochaines années, il en devra fermer 5000 écoles et ouvrir 500 EHPAD. Hein, c'est ça la
parce
France
que c'est
aujourd'hui.
La pyramide des âges,
oui,
qui évidemment
c'est
se transforme.
C'est pour ça que le système de répartition ne fonctionne plus.
Qui est de moins en moins une pyramide.
Exactement.
Et qui a le sommet de plus en plus en bas.
Vous voyez, entre le local et le global, tout est cohérent.
Et justement, David Lisnard, je le disais, vous réunissez à partir d'aujourd'hui 12 000 maires qui vont être réunis en congrès. C'est à 4 mois des élections municipales. Ce sera le 15 et le 22 mars prochain. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les différents sondages disent que les questions majeures pour les prochaines municipales, c'est la sécurité, c'est la question de la santé, c'est la question aussi de la mobilité. C'est ça, aujourd'hui, vos priorités?
Oui, le maire, c'est le mandat de la qualité de la vie et de la dynamique locale. Hein. J'ai vu ce sondage qui est intéressant, c'est-à-dire que les Français, maintenant, transposent vers les maires des sujets qui sont tous des sujets régaliens, ou des sujets de l'État, hein, notamment la sécurité. Et donc, beaucoup de Français vont vers la dernière figure qui, peut-être, tient encore le coup sur le plan institutionnel, que sont les maires. Alors, il s'agit pas de dire que tous les maires sont formidables. Hein. Il y a des mauvais maires, il y a des mairies mal gérées, enfin, comme il y a des entreprises, enfin, c'est la vie, ça. Mais on voit bien que c'est encore un échelon de qui fonctionne. Je dis souvent qu'on est les praticiens du quotidien et on a montré depuis 6 ans, crise Covid, inflation, accueil des réfugiés, etc., que l'on était des urgentistes de la République. Bon. Donc ces sujets-là, ils reviennent partout, dans les villages, dans les grandes villes, dans les villes de gauche, dans les villes de droite, dans les villes où il n'y a pas de positionnement politique. Et ils vont être évoqués dans ce congrès où on va aussi poser les problématiques de l'intelligence artificielle. On va beaucoup travailler sur ces questions-là. Comment on peut améliorer la gain de productivité? Comment on peut donner des solutions dans les petites communes?
Parce que, il faut le dire, vous aurez moins de sous. Oui, faut quand même se rendre à l'évidence. Ouais. Le budget tel qu'il est en train d'être discuté, mais c'était déjà le cas des deux précédents budgets, il va quand même vous donner moins de sous. Globalement, oui. On resserre la vis à nouveau des collectivités locales.
Alors, malheureusement, c'est un peu plus pervers, parce que si c'était resserrer la vis pour assainir les comptes publics, pourquoi pas ? Je veux dire, on est tous soucieux de l'assainissement des comptes publics. Les intérêts de la dette de l'État vont représenter, je parlais du budget de la justice, 6 fois le budget de la justice. Avec vos impôts, avec nos impôts, nous allons payer 6 fois plus pour les intérêts de la dette d'un État qui ne se réforme pas que pour tout le budget de la justice. Le problème, c'est pas ça. C'est que c'est pas des économies qu'on nous demande. Ça c'est le récit qu'on sert à l'opinion publique. En disant, il faut participer à l'effort, avec ce récit infantilisant qui nous exaspère d'ailleurs. Non, en fait, ce sont des prélèvements supplémentaires. C'est-à-dire que l'État prend, comme un drogué de la dépense publique, prend toujours plus sur les ménages, il va s'attaquer à l'épargne, prend toujours plus sur les entreprises, et prend toujours plus sur les collectivités. Or, c'est pas en saignant les biens portants qu'on va soigner le malade.
Un drogué de la dépense?
Oui, bien sûr.
L'État est drogué de la dépense.
Le système social. Moi, je pense, alors c'est pas l'AMF qui parle là, c'est mes convictions personnelles, qu'on est au bout, qu'on a la fin du système de l'État-providence.
Voilà. Vous considérez encore être, vous n'êtes pas député, mais faire partie de la famille du socle commun, ça existe encore pour vous, le socle commun?
Quelle transition, tout d'un coup.
Non,
du pays réel.
Selon les informations d'RMC, le socle commun, comme on dit, ne votera pas le volet recettes. C'est exactement ce que vous disiez à l'instant. L'État drogué à la dépense. Oui. Si vous étiez député aujourd'hui, est-ce que vous le voteriez sur ce budget?
Mais moi d'abord, je n'ai pas voulu être député. Je m'éclate, je ne sais pas si c'est le terme, mais en fait, je me réalise en mon mandat de maire et j'essaie de porter une voix nationale aussi. Mais non, moi je pense que ce système est cuit, que depuis la dissolution, il faut qu'on réamorce un cycle normal dans l'esprit de la Ve République avec un nouveau président de la République, avec un nouveau Parlement. Je n'ai jamais accepté cette notion de socle commun. Je pense qu'on n'est pas du tout dans une tripartition de la vie politique avec gauche, socle commun, RN. Je pense qu'on est dans une quadripartition, qu'il y a les deux gauches irréconciliables dont parlait Emmanuel Valls, avec une extrême gauche qui devient de plus en plus néo-fasciste et anti-républicaine, etc. Une gauche républicaine que je respecte beaucoup, qui essaie de renaître mais qui a des difficultés. Le RN qui se dit ni de gauche ni de droite, et comme je disais récemment, il nous a démontré qu'effectivement il n'était pas de droite sur le plan budgétaire puisqu'ils ont voté 34 milliards d'impôts supplémentaires en 24 heures. Et entre un éparpillement façon puzzle, et c'est de droite, du centre, vous l'appelez ça. Et c'est là qu'il faut cristalliser quelque chose avec un projet clair.
Ça veut dire, David Lisnard, j'ai bien compris. Un, vous le dites non, ça, en effet, vous ne le voteriez pas en l'état.
Non,
ça, c'est
pas,
pour vous invotable, ce budget. Et quand vous dites.
Moi, j'aurais voté la censure, si vous voulez. Donc,
vous auriez voté la censure,
voilà.
Carrément.
Oui, oui, oui.
Voilà. Vous estimez que la droite, comme vous dites, républicaine, aurait dû voter la censure.
Vous comprenez le côté pervers qui consiste à dire, sous couvert d'une espèce de stabilité, il faudrait que tout le reste soit instable. Instabilité fiscale, instabilité sociale, instabilité économique, une espèce de mantra un peu infantilisant, instabilité, en responsabilité, etc., pour que les mêmes restent au non-pouvoir, d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas de pouvoir.
La stabilité obsessionnelle du pouvoir entraîne une instabilité pour le pays.
C'est formidable quand c'est positif. La stabilité dans la prospérité, la stabilité dans la sécurité, si l'éducation nationale progressait, si notre école était de bon niveau. Or, aujourd'hui, tout le quotidien montre le déclassement.
On va revenir sur la question.
On parlait des narcotrafics, juste.
Allez-y.
Il faut attention à ce que ça ne cache pas l'autre volet de l'insécurité. Il n'y a pas que le narcotrafic. Il y a toute une insécurité qui n'est pas liée au narcotrafic, contrairement à ce qu'on nous raconte aussi. Le narcotrafic, parfois, il assure même l'ordre.
Vous
dans
parlez
les quartiers.
De quoi ?
Mais des rixes, des attaques au couteau, le fait que moi, quand mes gosses sortent dans la rue, je suis pas tranquille, voilà, parce que j'ai peur que les garçons se fassent agresser par des bandes qui zonent ou que mes filles se fassent embêter, voire pire. Voilà, c'est une réalité. Quand il y avait une rixe au couteau dans notre commune, avant, on en parlait tout le temps. Maintenant, c'est devenu banal. C'est ça, la réalité. Et ça se retrouve
dans
les statistiques.
Donc, on n'en parle plus parce que c'est le quotidien ?
Ben oui, il ne faut pas banaliser ça. C'est pas normal. Voilà. Et il y a des choses à faire.
Comment est-ce qu'on fait au niveau national ?
Parce que le pays est tonique, quand même.
Avant de revenir, effectivement, sur aussi les questions auxquelles vous êtes confrontés, vous défendez, je cite, un projet libéral sécuritaire et éducatif, oui. Une grande primaire ouverte, mais qui irait de qui à qui ? C'est-à-dire, est-ce que ça va de Zemmour, Knafo, en gros, à Édouard Philippe, Gabriel Attal ? Pour vous, c'est ça ?
Moi, alors, à condition que ces gens-là se réclament d'un principe de droite. Je suis pas sûr que Gabriel Attal, ça dépend des jours, quoi. Voilà. Édouard Philippe, c'est plus le même depuis qu'il est Premier ministre. Hein. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut faire gagner la France, il va falloir s'attaquer à la racine des choses, c'est-à-dire à l'organisation de l'État,
mais on va
la performance publique. Non, mais c'est juste, vraiment, je vais être rapide. Ça, donc, pour répondre à votre question, je ne vais pas l'esquiver du tout. Et pour cela, il faut qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller au deuxième tour. Hein, c'est pas compliqué, vu la force du RN, vu la force de l'extrême gauche. Donc, il faut faire plus de 15% en premier tour. On peut plus payer le luxe des premiers tours qui départageaient un Balladur, un Chirac, un Giscard, un Barre, etc., etc. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait une cristallisation avec un projet qui soit pas un arrangement de notables. Donc, tous ceux qui se réclament de la droite, Dupont-Aignan aussi, ces gens-là qui font 3-4 points.
Dupont-Aignan qui, lui, s'était associé au RN.
Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils sont autonomes. Ils vont à la présidentielle, ils font entre 3 points et 5 points. C'est-à-dire qu'ils empêchent d'aller au deuxième tour. Donc, il faut une compétition, il faut démasquer les...
Donc, ça veut dire Dupont-Aignan, ça veut dire Zemmour, Knafour, Reconquête.
Moi, je crois, ouais, je crois. L'UDI, le Nouveau Centre.
Et si certains du RN vous disent, au fond, faisons le même ensemble, est-ce que si Jordan Bardella, à un moment, vous dit, faisons-le ensemble, est-ce que ça vous intéresse?
Mais moi, il est impensable de devenir le croupion du RN, dont aujourd'hui, sur le plan régalien, du centre-gauche au RN, tout le monde est d'accord. Personne n'ose le dire, mais tout le monde est d'accord. Il faut coupler les flux migratoires, il faut rétablir l'ordre, etc. Mais moi, un parti politique aujourd'hui, et c'est pour ça que les macronistes sont très responsables de la situation, ils ont voté avec le RN, les macronistes.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Mais c'est-à-dire un parti qui vous dit, on va abaisser l'âge de la retraite, se fout du monde. Aujourd'hui, ils sont en train de planter les jeunes.
Ça veut dire, en fait, David,
ce
que vous êtes en train de nous dire, c'est que les seuls points sur lesquels aujourd'hui vous êtes en désaccord avec le RN, ce sont des points économiques.
Mais c'est colossal.
Ce ne sont plus des questions migration, régalien.
Je me permets juste de dire que le programme régalien du RN, c'est le programme, ils le disent eux-mêmes, et tout le monde le dit, du RPR des années 90.
Donc c'est la droite,
Oui, enfin il faut arrêter les hypocrisies.
Donc ça veut dire que si le RN évolue sur le plan économique, vous pourriez travailler ensemble.
Ça c'est de la fiction. Moi je veux faire gagner un projet. Je ne les crois pas. Vous rendez compte que je ne transige pas, y compris au sein de LR, parce que je les trouve trop étatistes, trop interventionnistes. Donc c'est pas aller pour aller me fourvoyer avec des macronistes, le RN, la gauche.
On est bien d'accord que c'est l'aspect
super
économique, c'est l'aspect économique et étatiste du RN.
Mais c'est plus que ça, c'est la vision de l'État. C'est une question. Une vision de l'homme. C'est-à-dire que moi, je souhaite que
c'est
chacun.
C'est parti des rares libéraux qui assument d'être libéraux en France.
Oui, moi, je pense qu'il y a une majorité de libéraux en France qui ne le savent pas. C'est-à-dire qu'ils veulent simplement qu'on récompense l'effort, qu'on récompense le mérite, que le travail et l'investissement soient compétitifs et rémunérés à leur juste titre, que le pouvoir d'achat, c'est pas les aides sociales, c'est de augmenter le salaire. Et je fais des propositions très concrètes là-dessus. Et parallèlement, qu'on puisse sortir dans nos rues en sécurité. Et enfin, que nos gosses, et notamment quand on est milieu modeste, puissent avoir accès à des bonnes écoles. Donc il faut pourfendre la planification scolaire, il faut enlever toute l'idéologie gauchiste de l'école, etc. Mais le RN, pour moi, il a une matrice très étatiste. Je me suis engagé dans la vie publique pour combattre tout cela. Je les combats.
David Lisnard, je voudrais qu'on dise un mot aussi de ces élus qui n'ont pas la force de se représenter.
Oui.
Parce que certes, il y aura 12 000 maires attendus tout à l'heure à votre congrès, d'entre eux n'ont pas la force de se représenter, vraiment jette l'éponge. Qu'est-ce que vous nous dites ce matin à tous ces Français qui vous écoutent sur le respect des maires, sur la question aussi des violences auxquelles ils sont confrontés, des réunions à répétition, des normes, comme vous le disiez?
C'est une très, très bonne question parce que la démocratie locale, c'est encore ce qui fait tenir le pays. Hein, et moi, c'est pour ça que je défends cela, et de façon d'ailleurs transpartisane au sein de l'AMF. On a eu plus de 40 démissions de maires par mois depuis le début du mandat. C'est-à-dire, c'est 4 fois plus qu'il y a 20 ans. À l'époque,
c'est pas juste des gens qui se représentent pas, c'est des gens qui arrêtent avant.
Ils ont démissionné. On dit, vous n'arrêtez jamais. C'est vrai que tout le monde ressent à un moment donné, parfois, la lassitude, l'envie de retourner dans la vie privée. Moi, j'étais commerçant. Ça vient à l'esprit, tout ça, évidemment. D'avoir parfois un week-end, etc. D'un autre côté, ceux qui sont restés sont très motivés. Plus qu'il y a 6 ans. Vous savez qu'on étudie avec le CEVIPOF. Parce que c'est un mandat qui est formidable. C'est un mandat alors, tout est plus difficile qu'avant. Moi, j'ai un peu d'expérience en la matière. Les projets sont plus longs, plus compliqués et plus chers parce que on nous a enfoncé dans le 100 000 feuilles administratives. C'est-à-dire que c'est nous, d'ailleurs, l'AMF qui avions dénoncé au moment de la loi NOTRe, la loi MAPCAM, enfin, toutes ces lois avec des acronymes abominables, toute la complication que connaissent les chefs d'entreprise, les présidents d'associations. Tout est plus long, plus compliqué, plus cher. Parce qu'il y a plus de bureaucratie, parce qu'il y a trop de réglementations, trop de procédures. On est dans la schématocratie. On passe notre temps à faire des schémas directeurs, etc. Et ça, c'est la première source de démotivation. Mais d'un autre côté, c'est vraiment une communion, c'est physique, le mandat de maire.
C'est, vous, c'est, vous vous-même, David
Lisnard,
avec les habitants, vous êtes candidat à votre propre succession?
Je ne l'ai pas encore posé. C'est pas une coquetterie de ma part ici, c'est que je prendrai ma décision, je la dirai aux Cannois, dans le cadre cannois. Il faut en parler chez soi d'abord, parce que ça engage votre entourage aussi. Et laissez-moi déjà vivre mon congrès des maires.
Le congrès des maires qu'on va suivre évidemment sur BFM TV. Merci à vous, David Lisnard, d'être venu justement au matin de ce congrès des maires qui s'ouvre tout à l'heure. David Lisnard, maire de Cannes et président de l'AMF. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours sur RMC, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, David Lisnard était mon invité. Jean-Louis Borloo, tiens. Vous vous avez écouté avec attention, David Lisnard. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Bonjour, appelez monsieur. Je suis d'accord avec Lisnard. Il a raison, Lisnard. On est sur la même longueur d'onde, le même constat. Il y a trop de normes. Faut arrêter avec ce millefeuille. Il l'a dit, les plats paperasses, la schématocratie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suis d'accord avec lui. Le problème de Lisnard, c'est sa méthode. Il est trop radical, tu vois, il est trop cash. Moi je dis que c'est Lisnard, on le voit, c'est le Javier Milei de Cannes. Il veut y aller à la tronçonneuse. Moi je dis, il faut faire la méthode douce, faut y aller au couteau à beurre. Faut que ça glisse.
Merci beaucoup, Jean-Louis Borloo. C'est vraiment sympa d'être passé. Thibaut Texer nous a rejoint pour les titres de l'actualité. Bonjour Thibaut.
Oui, bonjour Apolline. Après la fusillade sur un point de deal à Grenoble où un enfant de 12 ans a été grièvement blessé, le patron du BHV, Frédéric Merlin, s'est réjoui en constatant qu'il n'y a pas que Chine qui fait travailler des enfants. Et puis États-Unis, Donald Trump décide d'interdire l'entrée sur le territoire américain aux personnes obèses. Du coup, les Américains sont nombreux à annuler leurs vacances à l'étranger de peur de ne plus pouvoir rentrer dans leur propre pays. Tout de suite, la réaction de Pascal Praud.
Bonjour mon cher Thibaut. Il est où Thibaut? Il est là. Je trouvais qu'il avait rapetissé. Je suis un peu déçu par Donald Trump, que voulez-vous? Pourquoi discriminer ainsi les gens en fonction de leur tour de taille alors qu'il y a tellement d'autres critères plus recevables comme, je ne sais pas, l'origine, la religion, la couleur de peau par exemple, au hasard. Il y a des gens très bien qui aiment manger du cassoulet, du pâté, qui sont tout à fait pourtant fréquents. Ils sont même des icônes nationales. Regardez Gérard Depardieu. Ben oui. Faut pas les chercher très loin.
Merci Pascal. Et puis, libéré par le Venezuela, l'otage Camilo Castro a déclaré à son arrivée à Orly: puissent tous les êtres sur cette terre vivre libres de toute souffrance, loin de la guerre, dans la paix et dans l'amour. Voilà, donc après cette déclaration, Camilo Castro est donc le grand favori pour l'élection de Miss France 2026. Tout de suite, la réaction de Jean-Luc Mélenchon.
Le français Camilo Castro, mais quel abruti, faut vraiment être con. En plus, quand on s'appelle Castro, vouloir rentrer en France au milieu du bordel ambiant de Macron, alors qu'on a la chance de vivre dans un magnifique pays de gauche, comme le Venezuela, qui est quand même un modèle de dictature apaisée. De toute façon, il aura l'air malin, le Castro. De toute façon, quand je serai élu en 2027, la France, ce sera le Venezuela. Voilà. Donc c'est un aller-retour pour rien. Voilà.
Ça fait envie. Merci à tous. Emmanuel Macron était avec Volodymyr Zelensky hier. Monsieur le Président, la France a vendu 100 rafales à l'Ukraine.
Vous me faites sourire, Apolline. Vous êtes naïve. Oui. Vous pensez vraiment, chère Apolline de Malherbe, que l'Ukraine a les moyens de nous acheter 100 avions avec leur pays en ruine et leur billet de banque en papier crépon? Non. Ça, nous acheter des rafales, ils veulent bien, les Ukrainiens. C'est pour nous les payer. Ils sont là beaucoup moins chauds. Et puis, moi, je vous dire une chose, chère Apolline de Malherbe, je n'ai pas envie de leur offrir mes rafales. En 4 ans, nous, la France, nous avons quand même donné pour 20 milliards de matos, que du militaire et du haut de gamme. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec tout ça? À regagner 2 pâtés de maison à Mariupol et 3 hectares de champs de patates dans le Donbass. Donc, moi, je vous le dis franchement, cette fois-ci, je vais être payé par l'Ukraine et je veux des garanties.
Alors, c'est d'ailleurs pour l'instant juste une lettre d'intention.
Oui, ben, ça, c'est juste une lettre d'intention, vous avez bien raison. Là, on est juste au début. Puis je peux vous dire qu'avant de livrer,
Volodymyr, je vais lui demander son RIB, hein, sa pièce d'identité, un justificatif domicile et ses trois bulletins de salaire.
Oui, hein,
les
vrai.
Trois derniers. Et puis, je vais vous dire une chose, je ne fais pas de crédit, je le tiens à Volodymyr. C'est pas la peine qu'il mette son t-shirt vert pour jouer au gars de cet élève. Hein.
Merci beaucoup, monsieur le président. Hier, c'était l'ouverture du sommet de Choose France. Je crois vous reconnaître. C'était le grand salon donc, pour promouvoir l'investissement des entreprises en France. Je crois avoir entendu Arnaud Montebourg.
Bonjour. Oh, tu as l'oreille, tu as l'œil. Voilà, Pauline. Oui, écoutez, heureusement, franchement, on a Choose France. Alors, je précise, Choose, ça veut pas dire chaussure.
Non. Hein,
ça veut dire choisir, choisir la France. Et ça, je le dis, c'est un beau projet pour une entreprise étrangère que de vouloir s'installer en France.
Oui, sauf que là, c'était quand même, il n'y avait pas d'entreprise étrangère, monsieur Montebourg. C'était un sommet de Choose France pour les Français, pour que les Français restent en France, investissent en France.
Non mais attends, Apolline, là, t'es sérieuse?
Ah bah oui, très bien.
Mais tu déconnes ou quoi, là? T'es en train de me dire qu'on a fait un Choose France pour nous-mêmes, nous les Français?
Oui.
Pour éviter que nos patrons français se barrent de la France, c'est ça? Non, parce que là, je te rappelle que le but à l'origine, c'est quand même faire venir les patrons étrangers chez nous. Alors je t'explique, il y a une méthode très simple, parce que moi j'ai quand même un Bercy, t'as un gars du haut niveau devant toi.
Très haut niveau.
À l'époque, je t'explique, je prenais un autocar, je remplissais deux petits patrons japonais, après... Tu les emmènes au Folie Coquina Pigalle, tu leur bourres la gueule au champagne et derrière, je peux te le dire, ils te signent n'importe quoi. Avec ça, j'ai réussi quand même à leur faire ouvrir une usine de décapsuleurs à Charleville-Mézières. Tu vois le truc? Alors qu'un patron français, on le sait, il connaît l'arnaque. Même bourré, tu pourras jamais lui faire oublier qu'en France, il y a 50% de charges sociales. Voilà.
Merci monsieur Montebourg, un plaisir de vous avoir accueilli. On va rester dans l'économie du foot avec Kylian Mbappé. Bonjour Kylian,
oui.
Vous êtes devant les prud'hommes de Paris pour réclamer au PSG le versement de 55 millions d'euros d'impayés.
Bon mais attendez, on ne sait pas si pourquoi là, j'ai jamais demandé 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain, c'est faux, c'est 55 874 012 euros et 22 centimes.
Ah oui.
Mais oui, c'est important d'être précis parce qu'après je passe pourquoi moi.
Attendez quand même Kylian, c'est peut-être légitime. Enfin, vous comprendrez que c'est quand même un peu choquant de réclamer une telle somme au prud'homme. Surtout maintenant, on parle même de 263 millions d'euros.
Bon, mais je vois bien que c'est des sommes importantes, que les juges des prud'hommes, ils sont un peu paumés, ils n'ont pas l'habitude de ce genre de sommes. C'est pour ça que moi, les juges, pour qu'ils se posent moins de questions et qu'ils se sentent plus à l'aise, j'ai proposé de racheter le tribunal.
Ah oui, c'est malin.
Les murs, le fonds de commerce aussi, je reprends même tout le personnel. J'ai l'habitude, quand je suis en boîte de nuit, je la privatise. Ben là, c'est pareil, le tribunal, je privatise. Comme ça, on est tranquille, on fait un carré VIP avec les juges, les assesseurs, la greffière, on s'arrange, quoi. Il me reste plus qu'à faire d'Avenir Guetta, mais David Guetta, je fais venir à mes frais, il n'y a pas de souci.
Ah, c'est sympa, merci beaucoup. Merci monsieur Mbappé et merci Nicolas. Face à Cotlou qu'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast dans un instant les GG. Alain, c'est quoi le programme?
On va revenir sur un nouveau problème au Louvre. On ferme une galerie parce que le plafond du dessus est fragile. Le Louvre, un naufrage français, 32-16 pour en parler avec les GG.